Grâce et Ensemble vous propose de reprendre le livre du prophète Habacuc en prolongement de l'étude biblique de la semaine dernière, quitte à revenir sur certains thèmes déjà évoqués. Quiconque a placé sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, est loin d'être dispensé de la réflexion, et pour lui, tout n'est pas forcément simple, clair et compréhensible. Que de « pourquoi » se pose à son esprit. La foi, la plus solidement établie, ne supprime pas les problèmes angoissants que l'esprit rencontre sur son chemin. Avec Habacuc, nous l'avons déjà constaté, le serviteur de Dieu engage un dialogue avec son Dieu, et l'écho de ses paroles retentit pour nous comme l'expression d'une recherche anxieuse qui est la nôtre, encore aujourd'hui. Ô Dieu, pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi devons-nous supporter la violence et l'injustice? À cette première question du prophète, Dieu répond et annonce qu'il va intervenir par le moyen d'un peuple violent, les Chaldéens, qui seront l'instrument de sa colère et de sa punition. La description de cette peuplade est saisissante de vie et de puissance et se termine par ces mots qui résument tout. « Sa force à lui, voilà son Dieu. » Ô Dieu, pourquoi ne punis-tu pas le méchant et le laisses-tu accomplir ses œuvres mauvaises? À cette seconde question d'Habacuc, Dieu va répondre en affirmant d'abord que toutes les prophéties s'accompliront, même si elles semblent tarder. Puis, quelles que soient les circonstances, le juste vivra par sa foi, ou mieux, par sa fidélité. Enfin, une série de malédictions contre les pécheurs viennent attester la fidélité de Dieu qui ne se plaît pas à l'injustice et au mal. Malheur aux voleurs, malheur aux malhonnêtes, malheur aux avares et aux orgueilleux, malheur aux chefs injustes, malheur aux débauchés, malheur aux idolâtres. Après ce dialogue dans lequel Dieu a répondu à son prophète, celui-ci fait monter sa prière sous la forme d'un beau psaume liturgique qui constitue le chapitre 3 du livre. C'est une invocation de Dieu, une description de l'intervention de Dieu dont la colère éclate contre tout ce qui est corrompu, même dans la nature. Et pour finir, l'expression de la crainte de l'homme qui se transforme en joie à cause du salut de Dieu et de sa force. L'Éternel, le Seigneur, est ma force.
Alors, le prophète là-dedans, pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Parce que ça, c'est la vision, c'est pas encore, c'est avant les événements, semble-t-il. Donc, il a déjà une anticipation de ce qui va se passer réellement. Et alors, pourquoi cette vision? Et Dieu va répondre au chapitre 2. Par l'annonce d'une autre vision, qui va être une vision de promesse du salut. Alors, ce n'est pas encore le salut, mais c'est la promesse de l'accomplissement, enfin voilà, de son intervention.
Qui est basée sur la fidélité.
Oui. Hein? Oui. Alors, fidélité, et foi sont de la même étymologie.
Oui.
Quand on dit les fidèles, quand on parle des fidèles, dans le langage chrétien, les fidèles, c'est pas les gens qui sont là tous les dimanches. C'est pas ça les fidèles. C'est ceux qui ont donné leur foi au Seigneur, qui le suivent en fait, qui lui ont donné leur confiance, qui lui ont donné leur foi. Ouais. Et l'insolent, là, dans ce verset 4 qui semble être le verset central, enfin au moins synthétique de tout le livre, c'est l'insolent n'a pas l'âme droite, l'insolent c'est le conquérant. C'est l'orgueilleux, c'est celui qui vient avec ses armées et qui impose la force militaire, qui impose sa loi par la force.
Oui, avec une âme tordue. Hein.
Avec une âme tordue, parce que, oui. Donc ça, ce temps entre la promesse et l'accomplissement, ben c'est le temps de la foi, en fait. Et il n'a pas un rôle facile, notre ami Habacuc. Parce que on appelle ça un prophète de malheur.
Ouais.
Il annonce que la belle époque, c'est fini, quoi.
Ouais. Ouais.
Alors, on va passer aux questions, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu, vous a interrogé ou vous a choqué?
Ce qui m'a interrogé, c'est au verset 17, là, tu mets « Le figuier n'a pas fleuri ». J'ai du mal d'avoir des fleurs de figuier, parce qu'on a deux figuiers dans le jardin et ils ne fleurissent pas. T'as tout de suite les petites boules, et puis elles grossissent. Et puis...
Ah, oui.
Alors, je ne sais pas, les fleurs de figuier, je ne sais pas où elles se trouvent.
Enfin,
ça c'est de la botanique. Ça.
Alors peut-être que c'est plus facile, plus joli de dire le figuier n'a pas fleuri plutôt que de dire le figuier n'a pas bourgeonné, peut-être tout simplement.
Bah,
c'est des bourgeons quoi. C'est,
même pas.
C'est
même
des
pas
embryons de fruits.
Oui, c'est
tout de suite le fruit. C'est tout de suite le fruit.
Oui, c'est tout de suite le fruit. Mais ouais. tout petit, hein, déjà au printemps. Et puis après, bah, elle grossit, puis ça te donne la figue. Mais,
ah ouais.
Mais au départ, on ne voit pas de fleurs. Non, mais c'est en marge.
Mais quand même, le fait qu'un arbre ne donne pas, enfin, soit stérile finalement, c'est inquiétant. Enfin, les jardiniers n'aiment pas.
C'est aussi en rapport avec notre humanité qui ne produit pas par rapport à nos talents, tu vois,
ouais.
Comment dire, je le dis mal, que notre croyance, notre foi n'est pas assez présente pour passer dans les actions, dans la vie de tous les jours.
Ouais, ouais.
Tu vois, on est aussi un fruit stérile quelque part.
Oui, oui, oui. Ça n'aboutit pas, ça ne
voilà,
se développe pas.
Ça ne se développe pas.
D'accord. Ouais. Pas de récolte dans les vignes, le fruit de l'olivier est décevant, dans les champs plus de nourriture. C'est comme si la météo se mettait du côté de l'agresseur, quoi. Il n'y a pas de survie possible. Hein.
C'est aussi en rapport avec tous les problèmes écologiques qu'on vit actuellement, hein. Complètement, là, on est vraiment là-dedans aussi.
Non.
Les régions qui normalement donnaient du fruit n'en donneront moins à cause des sécheresses, des inondations.
C'est ça.
Il ouais, y a, y a ouais. toutes ces problématiques de changement
ouais.
de ce qui était et qui oui. aboutit autrement.
Oui. Eh bien oui, quand on voit aussi ce qui se fait au niveau des abeilles,
oui. le devenir des abeilles. Les vignes qui vont changer d'endroit parce qu'il fait trop sec.
Ouais. La pollinisation ne se fait plus,
oui, non, mais
comme
voilà,
elle se faisait. Ouais. Et l'impact, ben, l'impact, il est directement sur la nourriture, finalement.
Mais...
Sur l'alimentation.
Donc notre survie, quelque part.
Oui.
moins d'oiseaux parce que moins d'insectes,
oui.
etc.
Oui, c'est tout un ensemble, une chaîne, c'est une chaîne, oui. une économie, toute une économie naturelle qui est détruite. Moi, je me demande si aujourd'hui, au milieu de la morosité ambiante et du catastrophisme annoncé, il n'y a pas une posture prophétique à adopter déjà pour soi-même, même si c'est difficile de le publier, mais de dire mais tout n'est pas complètement
fichu.
Fichu, oui, je cherchais le mot. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit une belle incantation oui. en disant tout va s'arranger.
Non, c'est pas ça.
Le bon Dieu va intervenir. Ah ben oui, mais.
Sûrement pas.
Le bon Dieu ne va pas intervenir si nous, on ne fait pas aussi ce qu'il faut, quoi. On peut, me semble-t-il, avoir une certaine discipline et, en effet, accepter de décroître d'une certaine manière dans nos consommations.
Oui.
Renoncer. Et ça, on ne peut pas le demander à tout le monde. Parce que...
Même rien que le mot discipline, en France, on est allergique. C'est une façon de vivre, c'est pas une discipline militaire, machin, truc. C'est une façon de vivre.
Oui, mais c'est une chose que notre morale chrétienne devrait entraîner de manière assez lucide, logique, quoi.
Lucide.
Et je pense que la discipline, c'est pas à imposer aux autres, c'est d'abord à s'imposer à soi-même.
Hein. Oui. Façon de vivre.
Oui.
Et ce qui me paraît compliqué maintenant, c'est que il y a même 40 ans, il y avait plus de discipline collective. C'est-à-dire que le spectre des possibles, on était dans une situation plus restreinte, alors que maintenant, le cadre de vie est tellement large entre tout ce qui est véhiculé par les par Internet et autres, qu'on est dans des extrêmes tellement éloignés que être dans une discipline un tout petit peu même cohérente et collective, ça devient compliqué. Et là, je parle de l'école, quand les enseignants avaient quand même une culture un peu commune.
Oui.
Et ça, c'est aussi en train de partir à cause des profils des nouveaux enseignants. Et on n'a plus... Alors, bien qu'on soit formé à ça, je trouve que ça devient compliqué. Et puis, quand t'es enseignante, ben t'as les enfants. Donc, ce que tu induis devrait être cohérent et ça l'est pas toujours.
Ouais.
Bon, c'est comme ça.
Alors
parents, moi, j'aimerais bien marcher.
Pardon.
Et les parents surtout. Hein,
ah oui, mais alors là.
C'est
très compliqué. Ils sont très démunis. Très, très démunis. Là, je voyais une maman, là, j'ai fait la route avec elle dans le train. Un petit gamin de 4 ans et demi. Ça demande une vigilance de tous les instants, parce qu'évidemment elle avait son portable, donc le gamin voulait le portable. Elle avait des choses qu'elle pouvait induire, mais il était tout de suite dans la crèche violente, tu sais, pour taper la maman, donc elle a bien réagi.